et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la petite bête sur le fil qui sera particulier, mais cela dit, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Pour nous accompagner, pour vous accompagner durant cette émission, nous aurons l'honneur, que dis-je, la joie de recevoir notre ami Monsieur Pignon. Bonjour à vous.
Bonsoir, cher JC.
Mais ben voilà.
Bien heureux de vous retrouver.
Eh bien moi aussi, bien heureux de vous retrouver, car cette émission, les auditeurs vont le comprendre, c'est une émission de reportage sur laquelle nous vous proposerons des reportages tout frais là, qui encore tièdes, même chauds, même voilà, et d'autres un peu plus anciens que nous recyclerons. Non, nous le recyclerons pas d'ailleurs, parce que c'est suite à des erreurs techniques qui n'avaient pas été diffusées en direct, donc vous les découvrirez, mais après coup, ce qui est plutôt pas mal aussi, hein, faut le reconnaître. Du coup, ça nous amène à parler de quoi aujourd'hui, hein ? J'ai envie de vous le dire. Eh ben, oui, ben, vous me faites de grands signes parce que vous ne connaissez pas l'ordre non plus de passage. Eh bien, nous parlerons d'agriculture. Vous n'êtes pas sans le savoir que mercredi dernier, pas moins de 400 agriculteurs ont manifesté dans les rues hébroïciennes. Que voulaient-ils ? Que faisaient-ils ? Et sont-ils repartis ? Vous aurez la réponse dans quelques instants. Nous parlerons également de prévention et de dépistage. Cette semaine s'est tenue également une rencontre professionnelle autour des infections sexuellement transmissibles, mais pas seulement, mais c'était au cœur des préoccupations. Un grand rassemblement de professionnels autour de cette question de la nouvelle donne dans la prévention et dans le traitement des infections sexuellement transmissibles. Derrière, je veux parler de recyclage, mais nous ne l'avons jamais diffusé. Nous étions en début de saison, au mois de septembre, au festival Les Mauvaises Graines à Verneuil-sur-Avre. Nous avons réalisé deux émissions fleuve, comme on pourrait dire, avec pas moins de 5 heures de direct chacun des deux soirs de ce festival Les Mauvaises Graines. Nous avons eu un tas de rencontres, nous avons fait beaucoup d'interviews. Un interview particulièrement intéressant a été celui des Yeux de la Tête, le groupe Les Yeux de la Tête, qui avait une actualité brûlante à l'époque, qui a refroidi entre deux, mais qui n'est pas mauvaise à se rappeler. Et puis il y a eu un échange assez particulier. Mais le sort s'est joué de nous, car il nous a mis entre les câbles, entre les micros, un problème technique qui a fait que les auditeurs n'ont pas pu assister à cet échange riche en sensations, on peut le dire. Ne riez pas, Monsieur Pignon.
Et puis ce qui est bien, c'est que ça coûte pas les Yeux de la Tête pour le coup. C'est gratuit pour les auditeurs ce soir d'écouter pour la première fois cette interview.
Exactement. Donc vous retrouvez ça. Et puis là, on mise sur le hasard. Nous avions prévu une invitée, comment pourrait-on dire, spéciale pour cette émission. Elle est actuellement à la salle Jules Janin à l'occasion d'une manifestation organisée par Habitat et Humanisme autour des questions du logement des plus défavorisés. Elle intervient dans cet événement, et si le temps le permet, si elle termine avant que nous-mêmes terminions, elle viendra nous rejoindre dans nos micros pour nous parler d'économie sociale et solidaire, car c'est le mois de l'économie sociale et solidaire ce mois-ci. Ça vous épate, hein ?
Oui.
Mais je le vois bien, vous en restez sans voix. En tout cas, c'est parti pour une petite bête sur le fil, et puis avec un tas de reportages et un tas de choses intéressantes.
Réfléchissez bien. Je vais être obligé de vous envoyer 405 volts. Alors faites un effort. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges ?
Voilà, nous non plus, ça ne nous amusera pas de vous envoyer des décharges, mais si vous n'êtes pas attentif, vous nous obligerez.
Un petit coup de taser au passage, ça fait jamais de mal.
Ça n'a jamais fait de mal à personne, exactement. Nous le disions dans cette introduction, mercredi 5 novembre, donc mercredi dernier, il y a eu un grand rassemblement des agriculteurs du coin à Évreux. Beaucoup d'articles de presse ont été écrits, beaucoup d'images ont été portées à la télévision. Moi, j'avais quand même un petit regard en me disant, voilà, la moitié des articles que j'avais vus sur cette mobilisation des agriculteurs étaient autour des difficultés de circulation en centre-ville. comme quoi ce sont vraiment des préoccupations de citadins. Les agriculteurs viennent manifester en ville. Qu'est-ce qui nous inquiète ?
Qu'on puisse pas circuler librement.
Exactement. Alors nous n'avons pas circulé librement, effectivement, mais pas moins de 400 manifestants agriculteurs sont venus à Évreux et ça faisait quasiment 250 tracteurs.
La prochaine fois qu'ils manifestent, peut-être on peut leur soumettre une date, je ne sais plus laquelle c'est, mais une date qui coïnciderait avec une journée sans voiture. Ça éviterait ces problèmes de circulation.
Oui, surtout que ça les impacte très peu vu qu'ils roulent en tracteur.
Bah oui, et puis c'est vrai, on devrait pouvoir imposer les jours de manifestation à ceux qui manifestent.
En tout cas, ça m'a suffisamment amusé de voir cet angle de traitement, notamment, pour qu'on se dise, eh bien, chaussons nos micros, n'est-ce pas ?
Ben oui, moi je suis allé voir ce qui se passait du coup sur cette manifestation à la préfecture.
Voilà, alors elle était portée par le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, à savoir le FNSEA, et également soutenue par la Chambre de l'agriculture. Les revendications globalement, mais ils en parleront bien mieux que nous, étaient autour de la pression des contrôles et de la réglementation exercée sur les agriculteurs. C'était autour des récentes directives autour de l'épandage de pesticides et nitrates, les revenus des agriculteurs, et puis les contraintes administratives très clairement. On aura l'occasion de revenir entre plusieurs des pastilles que vous nous avez concoctées, Monsieur Pignon. Je propose tout de suite que nous arrivions sur les revendications.
Bonjour à vous, messieurs. Du coup, qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui ? Pourquoi vous manifestez devant la préfecture aujourd'hui ?
Principalement, c'est pour le revenu des agriculteurs. Et dans les revenus, vu la moisson qui est très moyenne, les fermes ne vont pas boucler cette année. Donc, dans les revenus, il y a des revendications aussi contre l'administration qui pèse de plus en plus notre travail et nous commande finalement. Voilà.
Ben, on a trop de contraintes et de paperasse pour tout et n'importe quoi. On n'en finit plus.
Qui vous contraint justement à remplir tous ces papiers ?
La DDTM et puis c'est l'Europe quoi, pour le peu de primes qu'on touche, parce que ça baisse, mais les contraintes elles augmentent. Donc
on manifeste contre les contraintes environnementales principalement, et puis surtout tout ce qui est administratif, la paperasserie, on a trop de papiers à faire, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses en même temps.
Qui vous impose cette paperasse ?
Le gouvernement et puis donc tous les responsables des organismes, en fait, principalement. Quoi.
Et donc, par rapport à ce qui se passe d'un point de vue environnemental, quel est le problème ?
Il est vaste, le problème, en fait. On ne peut pas en parler comme ça pendant 5 minutes, mais c'est surtout au niveau de l'azote, de la directive nitrate qui vient de sortir, et donc on ne peut pas accepter ça. Quoi.
En fait, aujourd'hui, on est face à de plus en plus de contraintes réglementaires, aussi bien environnementales que financière et puis au niveau sécurité aussi, donc ça nous complique le quotidien, puisque nous on est déjà tributaire de la météo, tributaire des marchés, et en plus si on est tributaire d'une réglementation et de contraintes administratives, c'est le ras-le-bol en fait. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, tous les ans, il y a une couche supplémentaire qui vient se rajouter aux contraintes existantes. Et au bout d'un moment, la cocotte minute explose.
Le texte, c'est sur gauche. Et puis, ça fiche la pagaille. Des lois antinomiques, des textes antinomiques. Et puis, on n'avance à rien. Non, mais allez le retrouver dans le papier. Mais c'est pour vous résumer le contexte. Hein. Là, on est devant la cité administrative et la préfecture. C'est tout à fait justifié.
Ouais, en fait, c'est...
En fait, l'environnement, bien sûr que tout le monde est pour, etc. Mais les lois, elles se chevauchent. Bientôt, il faut faire plus de bâtiments pour protéger un tas de fumier qu'un troupeau, par exemple. Des règles d'épandage, alors qu'on prend les amendements organiques, on ne peut plus épandre dans des périodes où ça va très bien. Il faut bien sûr adapter les choses selon les secteurs, mais là on a des lois généralistes au niveau de l'Europe et la France veut faire plus blanc que le blanc qui sont inapplicables dans le contexte actuel. Et là aujourd'hui ils sont en train de se mettre tout le monde à dos alors que bon, les générations évoluent, les gens sont de plus en plus conscients de bien faire et de toute façon c'est une nécessité. Et là ça braque tout le monde. On n'avait pas encore vu.
Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette journée? Est-ce que c'est prévu qu'il y ait de nouveau de la mobilisation, des nouvelles manifestations ou vous avez bon espoir qu'après ça, les choses puissent se régler?
Bah, déjà, là, il y a un entretien avec le préfet en même temps qu'on est là. Donc, il va y avoir...
On a prévu d'aller à Paris.
Il va y avoir une décision de prise par le préfet. Enfin, je ne sais pas si c'est au niveau national, au niveau du ministère, au niveau du préfet. Mais oui, il y a une négociation en cours. Et en fonction des résultats de la négociation, forcément, est-ce qu'on va poursuivre le mouvement? J'en sais rien. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment dépendant de ce qui va sortir de la négociation. Kick that shit, Joe. Bam, 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 bigger than damn, bigger than damn.
Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner le titre de l'album qui est sorti en 2014 car il est trop difficile à vous restituer.
Laisse que moi avec mon déguisement. Il traverse tout le pays pour une interview. Mais lui, il se met vraiment dans la peau du personnage. C'est du journalisme total.
Voilà, du journalisme total. Justement, vous en avez fait, Monsieur Pignon, mercredi dernier. Vous étiez déguisé en quoi, d'ailleurs ?
En cow-boy.
D'accord, donc vous avez été à la rencontre des agriculteurs en cow-boy.
Je me suis mis un peu dans la peau du personnage, ouais. En cow-boy, je trouvais que ça passait bien.
Ça passait nickel. J'imagine que vous avez dû garder votre costume pour la soirée. Lors de cet événement, des slogans ornaient les tracteurs. Vous nous en avez ramené quelques-uns.
Oui, là, je viens d'en
retranscrire deux. Je vais essayer de vous retrouver un peu plus tard dans l'émission, les suivants. Il y en avait un qui était tout mignon, mais en même temps, ça en disait long sur voilà, l'agacement des agriculteurs. Le bonheur n'est plus dans le pré. C'est mignon et en même temps, voilà. Ça, c'est assez évident comme message. Et un truc encore plus terre-à-terre, mais qui parlera sûrement à tous nos auditeurs. Sans agriculteurs, plus de nourriture. Tout simplement.
Et c'est vrai que oui, c'est un des métiers obligatoires de toute façon. Hein. Faut bien nourrir les populations.
On pourra difficilement passer faire autrement que sans agriculteurs.
Quelque chose de synthèse. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, pour le moment, nous comptons sur eux. Je vous propose qu'on poursuive à écouter les sujets que vous avez tournés lors de cette manifestation du mercredi 5 novembre.
Est-ce que vous avez, vous constatez, vous, une crise de la vocation d'agriculteur? Est-ce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont prêts à se lancer, à reprendre une exploitation? Ou c'est une vue de l'esprit et en fait, dans la réalité, pas du tout. Il y aura toujours des jeunes pour faire ce métier-là et ce travail-là.
Bon, il y en a beaucoup qui le souhaitent. Il y en a peu qui y parviennent. L'agriculteur a un métier qui demande énormément de capitaux. Hein, vous voyez qu'une moissonneuse-batteuse qui vaut plus de 200 000 euros aujourd'hui va tourner 150 heures par an, c'est complètement aberrant. Vous pourriez acheter un magasin pour ce prix-là. Et, bon, c'est pas pour ça que le commerce va bien. Mais... Et aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit qu'on a plus affaire à des phénomènes d'agrandissement, là, qu'on mentionnait tout à l'heure, où c'est des gens qui s'installent dans la continuité des parents, vraiment des nouveaux installés sur des entreprises nouvelles. C'est très très difficile. Il y a une volonté dans les secteurs biologiques et malheureusement ils ne gagnent pas leur côte là-dedans. Moi j'ai pas mal d'amis qui le font. J'ai même souhaité le faire moi-même. Aujourd'hui malheureusement moi je suis embarqué comme je disais en fin de carrière dans des systèmes d'un peu de productivisme qu'on n'a pas forcément souhaité mais où on a des engagements bancaires à respecter. Je suis incapable de supporter une phase de transition. Hein. Et les gars qui le font, chapeau parce que moi je leur tire mon chapeau, on les voit. Ils triment du soir au matin pour gagner des queues de poire ou avoir des clients idéologiques. Bon, on n'a pas le temps de venir chercher la map parce que le petit y tousse. Et puis, le gars, il a gratté toute la semaine pour remplir sa caisse et puis personne vient la chercher. C'est pas motivant, quoi. Mais bon, attendez, tous les secteurs d'activité sont difficiles. L'agriculture en est un. Je pense qu'il faut avoir foi en l'avenir. Hein. La présence des jeunes agriculteurs parmi nous, là, on les voit. Là, c'est les drapeaux qui sont en couleur... comme derrière nous là et donc ils sont là parce qu'ils y croient hein, et ils ont raison d'y croire mais pas avec les règles du jeu d'aujourd'hui il faut qu'ils arrêtent leurs âneries ou que ça change quoi.
Et qu'est-ce qui est le plus urgent à changer là si on pouvait changer les choses qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier?
Bah donner les moyens à chacun de pouvoir travailler et vivre en pays selon le vieil adage mais d'arrêter un peu ces âneries administratives. On a bientôt 3 ou 4 fonctionnaires. Bon, je sais pas que j'ai une dent contre les fonctionnaires, je leur tire mon chapeau parce qu'ils n'ont pas sur les moyens de travailler, mais ils appliquent des lois qui souvent ils réfutent et ça fausse les règles du jeu. Quoi. Des bonnes idées qui sont mal appliquées ou qui ne sont pas applicables. Hein. C'est un peu confus, c'est pas évident parce que tout se bouscule en même temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment une profusion de données. Complètement, on ne va pas hétéroclite parce qu'elles vont tous dans le sens de je sais pas quoi en fait, parce qu'on se demande où on va.
C'est un peu les effets de la mondialisation aussi peut-être
bon, non, parce que la mondialisation elle va plutôt dans l'autre sens, qu'on voyait un peu ce qui se passe aujourd'hui. On l'évoquait tout à l'heure avec des énergies renouvelables, quand on voit notre cher président qui va dans le pays le plus. Qui sort le plus de gaz de schiste dans le monde. Nous, on développe des filières d'énergie renouvelable qu'il faut bien sûr faire, mais en favorisant celles qui remuent le plus de fric et qui est le moins efficace au niveau énergétique. Hein, l'air est beaucoup moins dense que l'eau. De toute façon, on n'arrivera jamais à en tirer quelque chose de correct, sauf qu'aujourd'hui, avec la subvention, c'est un dossier qui est tellement rentable. Hein. Aujourd'hui, ils donnent bientôt 15 000 euros à un propriétaire exploitant pour foutre une machine chez lui, une éolienne en l'occurrence. C'est n'importe quoi. Les collectivités locales qui sont exemptes parce qu'elles n'ont plus de dotation, elles cherchent les moyens de se financer. Donc il y en a qui foncent là-dessus. Tiens, ça va encore être le cas à Tiberville vendredi soir. Ils vont faire une réunion à huis clos. Ils ne veulent même pas voir les riverains pour essayer de faire forcer des dossiers éoliens en catimini. Et c'est du n'importe quoi. Après, on s'étonne que les gens se braquent. On se fout d'eux. On leur présente des dossiers qui sont faits avec des lois qui changent au fur et à mesure pour assouvir les besoins des industriels. Et puis, ben, une fois de plus, dans un autre domaine, on va avoir des problèmes, quoi.
Et vous, c'est quoi votre exploitation? Qu'est-ce que vous faites, vous?
Ben, moi, c'est polyculture.
C'est quoi polyculture? Je connais pas.
C'est céréales et puis avec un peu de betterave, du lin. De...
Et vous employez du monde sur votre exploitation? Vous êtes patron?
Ouais, je suis patron. Mais bon, comme j'ai pas une grande ferme, je prends quelqu'un pendant 4 mois quand j'ai une pointe de travail.
D'accord. Vous employez qu'une personne?
Ouais.
Alors moi, personnellement, je travaille sur une exploitation qui a polyculture-élevage. Donc on a 6 cultures différentes et un élevage de bovins viande de race limousine. Donc moi c'est 2/3 des surfaces qui sont consacrées aux cultures et 1/3 des surfaces qui sont consacrées à l'élevage. Donc en fonction de la période de l'année, je répartis mon temps entre l'un et l'autre.
Et en termes de surface, pour les deux parties de votre travail, ça représente au total combien de surface ?
L'exploitation représente 230 hectares pour 3 associés et 1 salarié.
Bon, moi, c'est une grande exploitation céréalière classique du Vexin normand, mais on a aussi malheureusement des raisons d'être là alors qu'on est dans un bon secteur d'activité. Donc il y en a qui sont d'autant plus à plaindre dans des coins plus difficiles. Et c'est grave, quoi, parce que on devrait pas avoir à se plaindre dans notre coin. Et finalement, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'installer des enfants, ils rushing. Je voulais faire des investissements, je ne les fais pas. Et puis, c'est inquiétant, quoi.
Combien vous embauchez de personnes ?
Là, j'ai un salarié, alors que je ne devrais pas en avoir. D'après mon comptable, ce qui n'est pas du tout mon état d'esprit. Et puis, on fait surtout travailler pas mal d'artisans locaux. Hein. On a des réseaux de concessionnaires, des réseaux d'artisans, dans des acteurs économiques, dans des villages. Aujourd'hui, nous, il y a, à part quelques exploitations agricoles, un menuisier, il n'y a plus rien. Mais quand même les années de carrière. Mais c'est vrai que les gamins, ils rushing un petit peu
à reprendre la suite.
Il y en a sûrement un qui le prend, je pense que ce sera plus parce que c'est beau que ce soit un peu partout aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un outil de travail, bon, on l'a créé, il existe depuis tout à l'heure. Investir maintenant, c'est fou quand on voit ce qui se pratique, et puis bon, c'est un peu la fuite en avant. Les aides compensatoires, on est content de les avoir, mais on préférerait que ce soit le marché qui les fasse. Hein. Mmh. Elles ne sont pas neutres, elles ont perdu 25%, mais c'est encore de l'ordre de 300 euros de l'hectare. C'est pas, à la limite, c'est pas normal, aussi bien pour le grand public que pour nous. Mais aujourd'hui, il est clair que j'ai posé la question un jour à un de mes comptables. Je ne sais même pas s'ils ont 5% de leurs clients qui pourraient s'en sortir sans ces aides compensatoires. Mmh. Et encore une fois, dans un secteur de grande culture, je dis, on est dans l'heure, on n'est pas au fin fond de la Creuse ou de l'Ardèche ou pour prendre des départements qui sont frappés par les aléas climatiques en ce moment. C'est quand même grave, quoi.
C'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment, sans me faire la voix du grand public, mais peut-être cette incompréhension où d'un côté les subventions permettent à ce que les agriculteurs puissent survivre et travailler, et d'un autre côté, aujourd'hui, on sent que c'est ça qui crée la discorde. Du coup, ça paraît contradictoire.
Pour moi, c'est un vrai détonateur, parce que si aujourd'hui elles étaient interrompues, il y en a les 3/4 qui vont se casser la figure et le quart qui va spéculer pour prendre le reste. Mmh. Et on va voir où elle va devenir. Tiens, alors, les transitions sur la biodiversité et autres qui sont souhaitées à juste titre, l'agrandissement à outrance, ça n'a jamais été salutaire. Hein. Il faut mailler le territoire, s'il faut entretenir le paysage, pourquoi pas, mais pas pour rien, je veux dire, on passe des heures à le faire. Moi j'ai plein de voisins dans la région de grande culture qui ont planté des haies pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Et ils ont changé des règles administratives qui font que ces haies-là ne sont plus prises en compte dans les aménagements paysagers à leur juste valeur. Et c'est, une fois de plus, on marche sur la tête, quoi. Et c'était des jeunes volontaires pour le faire.
C'est ce sentiment-là qui prédomine, le découragement. C'est décourageant.
Bon, c'est pas un décourageant parce qu'il ne faut pas baisser les bras, mais ça devient, j'allais dire agressif, mais c'est pas le cas, mais c'est agaçant pour rester quand même diplomate et soft. Je veux dire, vous voyez que c'est bon enfant ici, mais vous voyez que dans des secteurs plus difficiles que les nôtres, ça se passe quand même moins bien. Mmh. Et il ne faudrait pas que ça vienne à dégénérer jusqu'ici, parce que ça va être la pagaille partout. Là, ça a été organisé, c'est bien encadré. Et puis, on est tous des gens responsables, on est tous des chefs d'entreprise. On sait à quoi s'en tenir, on sait quoi faire, mais bon, il ne faut pas se foutre du monde non plus, quoi. où on a des porte-paroles qui sont en train de passer la bonne parole à l'intérieur. Ils sont une dizaine de tous les secteurs socio-économiques, là. Et de pas mal de représentants industriels, agricoles, y compris au niveau national, sauront passer le message. Le problème, c'est que le préfet, il va être un relais. Moi, pour avoir discuté avec eux ou son prédécesseur dans d'autres domaines, notamment des énergies renouvelables, ils ont des instructions, il faut les faire passer, même s'ils n'en sont pas convaincus.
Les fameux fonctionnaires qui appliquent, qui se retrouvent à devoir appliquer certaines choses.
À leur décharge, ils sont entre le marteau et l'enclume. Il ne faut pas qu'ils en fassent de trop non plus. Parce que bon, il y en a certains qui agacent un peu. Hein. Ou quand on voit des petits jeunes vacataires, là, comme au casse-pipe, un peu aigris, et qui foutent la pagaille dans les champs. Moi, ils sont venus me contrôler plusieurs fois de Rouen pour vérifier des bandes d'herbe que j'ai fait de manière volontaire, qui n'étaient absolument pas obligatoires, et qui permettent de couper justement ces fameuses grandes parcelles, de maintenir un certain biotope et une faune que certains d'ailleurs ornithologues ont pu constater, qu'ils étaient surpris de trouver, par exemple chez moi, des oiseaux qu'on ne trouve pas dans des plaines ouvertes habituellement, quoi. Donc il y a cette prise de conscience de tout le monde, mais à la limite, il y a des jours où on a envie de tout foutre en l'air. Hein. Bon, c'est pas mon état d'esprit et je peux encore me permettre de les garder. Combien de temps ça va durer? Non, il faut y croire, mais l'espoir, mais... Mais ça commence à agacer sérieusement pour rester diplomatique. Il y en a qui emploient des mots plus crus, mais...
Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Es que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana, si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Le digo a mi abuela, abuela, que me ponga, ponga, ponga el rito en la cazuela, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Oh, oh.
Radio Tarifa avec le titre Rumba Argelina.
Je vais vous apprendre un petit truc. Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles. Jamais de ma vie, je ne signerai votre truc. Jamais, même si je dois en crever. Ce sera un déshonneur pour mon pays, mon Dieu et mes ancêtres. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? Je vous hais tous au plus haut point, vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
Ce n'était pas issu des reportages sujets tournés par Monsieur Pignon lors de la manifestation des agriculteurs. C'était bel et bien une virgule.
Certainement un film. Alors c'est pas un Steven Seagal, mais dans le même ordre.
Oui, ça doit pas être mieux. Dans le même esprit, en tout cas. Nous revenons à notre sujet qui occupe une bonne partie de la petite bête sur le fil de cette semaine, à savoir la manifestation du mercredi 5 novembre des agriculteurs des alentours qui sont venus jusqu'à Évreux pour faire entendre leur mécontentement, alors principalement autour du revenu des agriculteurs, des contraintes administratives, des récentes directives autour de l'épandage des pesticides et nitrates. Voilà, un tas de revendications qu'ils avaient, sachant que, voilà, là, clairement, le milieu de l'agriculture étant un milieu relativement difficile entre Europe, État, région, exploitation et ce qu'ils peuvent faire entre tout ça. C'est pas vraiment la vie en rose, comme on pourrait dire. Et il y avait d'ailleurs quelques-uns des slogans, d'ailleurs.
Oui,
vous étiez sur place, Monsieur Pignon.
J'ai retrouvé quelques slogans, là. Cessez d'emmerder les paysans. Bon, voilà, c'est assez...
c'est assez clair. Hein.
C'est assez direct, oui. Et non à la bureau écologie. Donc là, on dénonce à la fois et l'Europe et la bureaucratie et notamment les récentes... directive environnementale sur l'épandage. Bon, voilà, c'est toute la difficulté est là parce que c'est vrai que ça peut nuire avec les mauvaises odeurs au tourisme, par exemple. C'est des choses que j'ai déjà vues, moi, mais d'un autre côté, voilà. Donc il faut réussir à trouver du fumier qui sente moins mauvais que. Voilà, c'est pas évident.
Tout dépend de l'alimentation de l'animal. Hein.
Ouais.
Pardon.
J'entendais dans un des sujets, peut-être on va l'entendre tout à l'heure, qu'aux États-Unis, certains animaux étaient nourris avec de l'antibiotique aussi. Donc, voilà, peut-être que ça peut améliorer l'odeur du purin.
Je ne sais pas. En tout cas, il doit être très sain, cet antibiotique, prêt à ce purin, prêt à être consommé, quoi. Donc voilà, cette manifestation était une manifestation nationale qui s'est faite dans énormément de préfectures et de sous-préfectures même. D'ailleurs, aux Andelys, sous-préfecture de l'Eure, il y avait également un rassemblement, alors beaucoup moins impressionnant que sur Évreux. Nous rappelons quand même que sur Évreux, c'était plus de 400 manifestants agriculteurs pour environ 250 tracteurs. C'était relativement impressionnant.
Oui, tout le boulevard Georges Chauvin là, de la préfecture, donc qui va du palais de justice jusqu'à au commissariat de police, c'était donc sur trois rangées, il y avait des tracteurs 250, donc on fait le tour au Bel et Bas, on stationnait au Bel et Bas, etc. Là dans la rue il y en avait moins, mais c'était quand même impressionnant de voir tout le boulevard occupé sur trois rangées. Voilà, c'était avec tous ces slogans, donc j'en ai noté certains, voilà. Et puis on l'entend aussi un petit peu dans le reportage, ces bruits de pétards et de fusées de détresse, un petit côté guerre, quoi, qu'on aime bien dans les manifs.
Je vous propose tout de suite que nous retrouvions les autres reportages tournés toujours par Monsieur Pignon, à savoir les thématiques autour de la production de blé à perte, la notion également entre l'Europe, l'État et puis voilà, l'économie de marché, parce que c'est une dure réalité également auquel les agriculteurs ne se soustraient pas. D'autres sujets autour de la place de l'agriculture française selon les agriculteurs manifestants. Également le regard sur l'environnement. Vous les avez questionnés sur leur regard autour des questions environnementales.
C'est vrai qu'on a eu, comme ça un petit peu dans l'opinion, eu tendance à opposer les paysans et les écologistes, alors qu'en fait, leurs revendications et leurs intérêts sont convergents, puisque les paysans n'ont pas intérêt à tout flinguer
Et voilà, donc c'est une conscience environnementale qui est passée, je pense, dans une majorité de conscience voilà, chez les paysans.
Très bien, je vous propose tout de suite de réécouter la suite des sujets.
Et du coup, est-ce que vous arrivez à tout vendre et est-ce qu'il y a une partie que vous vendez à perte ?
Ah ben, cette année, on vendra peut-être du blé à perte, mais ça, on ne sait pas, ça dépend de la qualité. On verra quand il va ressortir. Même si qu'on va vendre à bon prix, ça sera notre prix de revient parce qu'on a des prix de revient qui augmentent. Et puis bon, ça allait bien quand le blé était cher. Bon, on nous montrait du doigt, mais maintenant qu'il a baissé, on n'aura pas de revenus, quoi. Bon, du coup, on ne fait pas vivre les autres non plus.
Entre l'Europe, l'État et la loi du marché, quelle est votre marge de manœuvre à l'heure actuelle ? Vous parliez justement de...
Venez avec moi, là.
Vous parliez justement de problèmes de revenus pour les agriculteurs. Oui. Voilà, quelle est votre marge de manœuvre ?
Cette année, il n'y a plus de marge. Parce que la moisson a été en qualité moyenne et en qualité mauvaise, voire les rendements moyens et surtout les cours qui se sont effondrés. Et il n'y a plus de marge, voilà, tout simplement.
On a fait le métier d'entrepreneur pour être libre un petit peu d'entreprendre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà, on n'a pas une réelle liberté de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est aussi une facette du métier qu'on est en train de perdre, c'est la liberté, quoi.
Alors, dans ce qui venait d'être dit, je souhaitais moi quand même de souligner une des phrases qui est passée, enfin qui a été dite quasiment de manière anodine, mais finalement qui, je trouve, est très lourde. Peut-être nous arriverons à le vendre à bon prix. Un bon prix, c'est le prix de revient. C'est terrible, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on équilibre le budget, on cherche même plus à...
On ne gagne pas d'argent.
Ouais. On ne cherche même plus à en gagner, quoi. Mm-hmm. C'est quand même assez... c'est scandaleux, quoi, toute façon. Ce qui oblige, du coup, à ce système de subvention et de compensation.
On comprend mieux pourquoi...
De quota et tout ce qui s'ensuit.
On comprend mieux pourquoi, voilà, il y a autant de subventions qui sont... notamment avec la PAC, qui sont mis pour soutenir l'agriculture. Moi, il y a la fin aussi de cet extrait-là, où on a choisi de faire ce métier-là pour être libre, et en fait, le sentiment de ne plus être libre, c'est on peut comprendre la colère, en fait, de ces manifestants et paysans.
Dans un des communiqués du FNSEA, donc c'est le syndicat majoritaire agricole, dans une de ces communications, un élément important ressortait, c'est que 75% des viandes et 87% des fruits et légumes consommés dans la restauration de la collectivité venaient de l'étranger. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sent à travers leurs témoignages, que nous écoutons déjà depuis un petit moment maintenant, qu'il y a un besoin de soutien, une recherche également d'être compris. Et finalement, les collectivités territoriales, locales et d'État, finalement, s'achalandent ailleurs pour les restaurations collectives.
Ça donne l'impression que ça fausse le jeu, clairement. Par certains côtés, sur d'autres secteurs, on incite au développement local. Et voilà, avec ces chiffres-là, en effet, on a l'impression que c'est contradictoire avec cette démarche de favoriser le développement local.
Donc 75% des viandes et 87% des fruits et légumes importés sur les restaurations collectives, de la collectivité, pardon, selon les chiffres du FNSEA.
Donc on imagine bien que ça engendre aussi ce qu'on appelle l'impact énergétique, de l'emballage, du transport supplémentaire, des choses superflues qui ne valent pas la peine, quoi.
Oui, mais c'est pas grave parce que notre production l'envoie ailleurs et on refait pareil. Pardon.
Ça s'équilibre dans la bêtise des fois.
Parfois, oui. Nous poursuivons avec les deux derniers sujets, notamment la place de l'agriculture française et cette conscience environnementale.
Environnementale, et en même temps, tout le monde est content de pouvoir manger
nous
vos produits.
Premiers, attendez, on a un cadre de vie et un outil de travail qui est le sol et la terre. Si on ne la respectait pas, on n'en tirerait rien. Hein. On n'est pas... Et là, on le voit, dans le département, je crois qu'il y a moins de 4000 exploitations actives aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a presque 300 tracteurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte du taux de mobilisation que ça fait par rapport à un secteur socio-économique comme le nôtre. Hein. Plus tous les emplois qui est induit derrière aussi. Ils encadrent pas mal la chose. Mais on n'est pas là pour toute la bagaille. Il faut faire passer un message. Il faut surtout faire comprendre qu'on ne dirige pas un pays avec de l'idéologie. On voit les excès que ça génère, que ce soit les effets médiatiques au sud de la France ou dans la Somme aujourd'hui. On entend parler des 1000 vaches. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui se sont regroupées pour monter une unité qui était aux normes et qui était viable économiquement. C'est sûr qu'on préférerait tous avoir une vache dans notre pelouse. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, si vous n'en avez pas 10 000 pour vous vendre des bêtes aux hormones et avec des antiseptiques, vous ne vivez pas. Hein. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Les gars, s'ils pouvaient vivre au bout de leur jardin, ils le feraient. Hein.
Est-ce que justement vous parliez des États-Unis, est-ce que voilà, d'un point de vue un peu général, l'agriculture française, elle se situe comment par rapport au reste du monde, ne serait-ce que par rapport à l'Europe, etc. Est-ce qu'elle se porte plutôt bien ou à l'inverse, c'est très compliqué?
On a surtout des règles du jeu qui sont faussées, hein, je vous ai dit tout à l'heure, on veut faire plus blanc que le blanc en France et en fait on a les conditions de travail sont absolument pas les mêmes, enfin les règles de travail. Il y a des rajouts partout, alors elles ne sont pas respectées partout, hein. On le voit en Italie, dans les pays de l'Est et autres. Et puis aujourd'hui, on importe de la viande du Brésil, par exemple, qui est faite n'importe comment, qui est finie à coup d'hormones. Des États-Unis où ils doivent vendre la viande saine, mais pas produire sainement, ce qui veut dire qu'ils désinfectent pour nous envoyer des trucs. Hein. Quand vous voyez des poulets trempés dans la saumure, c'est quand même pas un peu ragoûtant. Hein. Vous avez vu sur les véhicules les prix de marchandises, du lait à 30 centimes, de la viande bovine, j'ai pas d'animaux, mais je crois qu'elle part autour de 3,50 €. Vous allez l'acheter à combien? Et puis tout est comme ça. Hein.
Vous avez l'impression de ne pas lutter avec les mêmes armes que certains autres agriculteurs ailleurs sur la planète?
Puis il y a aussi une conscience, on a un territoire avec une densité qui fait qu'il y a beaucoup d'exploitations. On avait des exploitations familiales qui se concentrent de plus en plus. Et aujourd'hui, on a une course à l'agrandissement qui n'est pas forcément un choix, mais qui est une nécessité. On est allé dégager des coteaux calcaires pour valoriser un biotope et notamment des fleurs. Autrefois, il y avait des gens qui faisaient paître à des moutons là-dessus. Aujourd'hui, ils en sont incapables. Les troupeaux de moutons dans le département, ils sont. Je ne sais pas s'il en reste 100 ou 200, je ne sais pas exactement, mais il n'y en a pratiquement plus. Hein. Vous le voyez en vous déplaçant. Et c'est pas avec des bonnes volontés et quelques idéologies qu'on va arriver à entretenir un paysage qui est quand même important en France. On a quand même ce choix. Bon, il est un peu massacré en ce moment par l'industrialisation, mais on a un problème dans le département là où qui n'a rien à voir avec ça, mais on est en train d'industrialiser les paysages avec l'éolien, par exemple. Au départ, ça paraissait être une bonne idée, et puis on s'aperçoit en fait que c'est que des pompes à fric dans nos petits villages où il y a des rentes énormes qui sont versées. Bon, chaque machine, elle bouffe un demi-hectare avec ses rentes d'accès. Elle coûte très cher aux contribuables, ils sont en train d'en fumer aujourd'hui. Et puis, c'est qu'un autre exemple. Hein. Mais c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. Il y a des textes qui sont mis pour faire passer des circuits industriels qui sont peut-être nécessaires, mais qui ne sont pas du tout compatibles avec un paysage et un développement économique tel que le souhaitent la plupart des gens aujourd'hui.
Est-ce que la conscience environnementale, la prise de conscience environnementale, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, elle est fondamentale forcément pour les agriculteurs?
Tout le monde la souhaite, attendez, on ne va pas se voiler la face, c'est un outil de travail. Moi le premier, je me suis toujours battu, je suis plutôt en fin de carrière, pour des biodiversités, pour des aménagements, passer parfois pour des élus berlus, à vouloir mettre par exemple des fleurs dans les champs, on a tous des coins de champs perdus, où on peut entretenir des biotopes et autres, et aujourd'hui on nous pond des règles ubuesques pour faire des trames vertes, des trames bleues, qui ont peut-être une justification, mais de la manière dont elles sont faites, ils vont se braquer. J'ai jamais vu autant de prairies et de haies détruites aujourd'hui, non pas parce que les gens voulaient le faire, mais parce qu'ils ont peur des textes de loi qui leur tombent dessus. Et c'est complètement idiot, et ça fait l'effet inverse. On a peut-être un caractère latin, ou je ne sais pas quoi, qui fait que... ou celtique, parce que moi j'ai du celtique aussi chez moi, mais qui fait que trop de lois, ou au-dessus des lois, je ne sais plus comment on le dit, mais on arrive... Il y a plus à gagner à former aux gens, à avoir un effet de mimétisme. Nous, je vois ce qu'on avait fait avec les fleurs, par exemple. On a eu un effet tache d'huile qui s'était pas mal disséminé dans le département. Et dès que ça voulait être encadré par des mesures agro-environnementales, comme ils appellent ça dans nos administrations, là, les fameuses MAE ou autre chose, il y a eu tellement de contraintes que les gens ont arrêté, quoi. Et aujourd'hui, ça garde un impact purement médiatique, alors que ça a une réalité technique sur le terrain. Et puis que les gens aiment bien le faire, ça fait plaisir d'avoir des coins sympas, d'avoir un dialogue avec des gens. Moi, j'ai continué à le faire depuis 2005, mais ça, c'est surréaliste, quoi, je veux dire.
Qu'est-ce qui a changé de, voilà, de vous qui êtes un peu plus ancien peut-être que certains d'autres qui sont là? Pardon, c'était pas une voilà.
C'est pour ça que je me tiens à l'arbre.
C'était pas une moquerie, mais qu'est-ce qui a changé depuis vos débuts dans le voilà dans le travail de d'agriculteur? Qu'est-ce qui vous a marqué de plus en termes de changement?
Oh bah, autrefois, je gagnais ma vie facilement. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, cette année, je boucle pas mon budget. C'est bon, c'est cartésien comme chose. C'est un peu dommage. Bon, je vais arriver à... Ça va passer, si vous voulez, mais je suis très inquiet pour l'avenir de... Il va y avoir des gros problèmes de trésorerie à la fin de l'année. Hein. On sort de deux années où les rendements n'étaient pas mauvais. On a une conjoncture de prix qui n'est pas un profit de céréaliers, qui est une opportunité commerciale, qui est due au fait que des fonds de pension ont fait flamber des prix de céréales, par exemple. Je veux dire, on n'est pas plus philanthrope qu'un autre. On a un marché qui est porteur et on vend ce qu'on produit. D'ailleurs, nous, on ne spécule pas sur nos productions. On a fait des années pas mauvaises dans notre secteur céréalier. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui nous tombe dessus avec des déficits de trésorerie qui vont faire mal. Et ça, c'est un ressenti. Et bon, les pouvoirs publics en ont conscience, les cabinets comptables en ont conscience, les banques en ont conscience. Et au niveau économie, macroéconomie, ça va, ce que je disais tout à l'heure, avoir des conséquences indirectes au niveau des investissements. Hein. Et on le voit au niveau des ménages, on le voit partout.
Donc, oui, c'était une jolie fin. C'est parce qu'on n'a pas envoyé dans l'ordre dans lequel tous ces sujets ont été tournés, bien entendu.
Non, c'est vrai.
Tous ces sujets étaient extraits de la manifestation de mercredi 5 novembre où, je le répète, pas moins de 400 manifestants étaient présents. 250 tracteurs ont envahi le bel et bas et nos rues ébruissiennes. C'était Monsieur Pignon qui récoltait les propos des paysans qui étaient venus jusqu'à la préfecture pour se faire entendre. Et nous, en tout cas, nous les avons entendus. Non, vous voulez pas
Non, mais en espérant avoir pu éclairer un petit peu vos oreilles, peut-être citadines, sur la réalité du monde agricole et des paysans.
Et pas seulement, parce qu'on peut nous écouter aussi dans les zones
à la campagne,
bien plus rurales. Ne tombons pas dans le travers du citadin, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Je voulais terminer avec juste une petite phrase de Montesquieu que je vais vous lire tout de suite. J'aime les paysans, je vais la recommencer. J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.
Et ils ont changé ma chanson. Et ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Et ils ont changé ma chanson.
Look what they done. My brain, look what they done to my brain.
Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane.
Look what they done to my son.
Ils ont tradé ma chanson.
Ce n'était rien qu'une chanson,
mais c'était ma chanson. Ils ont changé ma chanson.
Thank you.
climat biome et sans changer ma chanson. Le bois des dames to my song.
Le quoi des dames to my song.
Plastic bag and turn it upside down. Look what they done to my song.
Ah bah oui, moi je profitais jusqu'à la dernière note au dernier instant de Arnaud et Stéphane Escher sur Ils ont changé ma chanson.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Bien, considère qu'on n'est plus amis.
Voilà, nous quitterons pas comme ça quand même, hein. Nous attendrons au moins la fin de l'émission.
Non, à Beatball.
Donc, nous avons dit que voilà, qu'il y avait plusieurs sujets sur cette émission. Nous avons parlé longuement de cette manifestation des agriculteurs sur Évreux, ce dernier 5 novembre, leurs revendications, leur réalité, leur vision également du monde. D'autres événements se sont déroulés cette semaine, notamment un rassemblement professionnel qui s'est déroulé au Conseil Général, mais qui regroupait les différents intervenants du monde de la prévention, du dépistage et du suivi des infections sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle dans le milieu les IST. Bon, pour avoir assisté à cette rencontre, je me considère maintenant du milieu et par... des raisons professionnelles, j'appellerais ça des IST. Les IST, infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, bien entendu, mais bien d'autres, l'hépatite et un tas d'autres. En tout cas, c'était l'occasion pour tous ces professionnels de la santé, du social, du médico-social, de réfléchir ensemble sur ce qu'ils appellent la nouvelle donne. Nous allons découvrir à travers ce reportage que les méthodes de prévention, les méthodes de dépistage, les méthodes de suivi et des porteurs de ces IST ont changé depuis tout ce temps où ça se faisait. Je vous propose d'écouter tout de suite le reportage réalisé cette semaine à l'occasion de cette rencontre.
Nous sommes avec le docteur Denis Ferron du CHI Heure-Seine, Françoise Lebrun, coordinatrice du Corps et Vie, et le docteur Nidal Akoum, médecin urgentiste au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Voilà, j'avais plusieurs questions. Cette rencontre qui se destinait aux professionnels était intitulée VIH, hépatite, IST, la nouvelle donne, en tout cas la donne change. Après des décennies de travail sur toutes les infections sexuellement transmissibles. Pourquoi et quels sont les constats qui amènent à se reposer des questions autour de la prévention et du dépistage ?
Donc nous, au Corrégie, autrement dit, on s'est aperçu qu'effectivement, depuis les dernières années, la donne changeait en matière de prévention et dépistage, donc tout ce qu'on a présenté ce matin, et qu'il y avait un réel besoin au niveau des professionnels de médico-sociaux, des gens qui interviennent sur le terrain, de leur donner des nouvelles actualités. Et on va dire que ça nous a donné raison, puisque nous organisons 4 réunions sur les 4 territoires de santé. Donc aujourd'hui, c'était la première à Évreux, et que les gens viennent, se déplacent, puisque nous avons entre 80 et 100 personnes sur chaque manifestation. Donc on s'est aperçu, nous, que le constat était vraiment que ces nouvelles donnes n'étaient pas peut-être suffisamment bien entendues, bien comprises, bien connues. Et d'où la raison pour laquelle nous avons fait ces quatre réunions.
Les nouvelles donnes, elles sont plus médicales ou en termes d'action?
Il y a tous les champs. Il y a le traitement, il y a la prévention, il y a le dépistage. Tout est lié maintenant. Il y a eu des avancées concernant le VIH pour la PrEP, prophylaxie, avant de passer au risque. Et donc, il y a eu des avancées. Et du coup, on a avancé côté VIH. Il y a eu un relâchement vis-à-vis du préservatif. Les IST sont apparu de nouveau, donc il faut travailler, lier tous ces modes de prévention pour mieux fonctionner.
Vous êtes médecin, vous intervenez directement auprès des publics, soit dans le cadre du dépistage, soit dans le cadre du suivi. Est-ce qu'il y a également une nouvelle donne du côté des patients? Est-ce que le profil a changé?
Bah, on a pas mal de patients effectivement migrants hein, qui sont majoritairement effectivement dépistés. Hein. Moi, c'est vrai que travaillant à la permanence d'accès aux soins, on a pas mal de, notamment vis-à-vis des hépatites et dont hépatite B, des résultats fortement positifs chez les personnes migrants venant essentiellement d'Afrique subsaharienne et vis-à-vis de l'hépatite C venant de l'Europe de l'Est. Donc c'est vrai que c'est VIH. On va dire on reste de façon endémique, mais on a une augmentation vis-à-vis des hépatites et chez un public, on va dire, plutôt jeune vis-à-vis des chlamydia qui augmentent de toute façon énormément.
Oui, je voulais dire par rapport aux nouvelles contaminations, des personnes nouvellement contaminées dans le VIH, c'est ce que disait Nidal, c'est au niveau de l'âge, parce que vous demandiez si la population a changé, on s'aperçoit que c'est 50%, ce que tu disais, de personnes qui ont plus de 50 ans.
Oui, c'est ça.
Plus de 50 ans.
Un âge tardif. Donc
un âge tardif.
Il faut aller les chercher, il faut aller les dépister, il faut... donc c'est les actions hors les murs, à l'extérieur de l'hôpital, pour les dépister tôt, les traiter tôt et gagner sur l'épidémie.
Ça va un peu à l'encontre peut-être de cette idée, alors peut-être qu'il n'y a que moi qui l'avais, hein, mais que finalement les IST étaient plutôt en direction des jeunes. Enfin, en tout cas, c'était une idée qui avait été véhiculée à travers les années 80, 90 et peut-être même 2000, non?
En fait, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Toutes les tranches de population.
Sur une région comme la Normandie ou peut-être plus localement l'Eure et la Seine-Maritime, est-ce qu'il y a une augmentation des personnes porteuses d'un IST? Est-ce que on se rend compte que la prévention a eu son effet à une époque et que aujourd'hui il y aurait une augmentation, ou on est toujours dans une réduction des personnes infectées, peut-être dans
le chiffre est stable.
Ouais,
voilà. Pas d'augmentation, pas de diminution, le chiffre est stable. Maintenant, est-ce que par rapport à d'autres régions, on ne peut pas dire qu'il le comparer. Il y a la région parisienne, puis il y a le reste. Ouais.
Par contre, sur le VIH, la file active au niveau de la Haute-Normandie, elle augmente tous les ans.
Là, qu'est-ce qu'une file active?
Alors, la file active, ce sont donc les patients qui sont suivis, les patients donc séropositifs qui sont suivis dans les hôpitaux de la région, et on s'aperçoit que donc tous les ans cette file active elle augmente, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 1000 sur un an.
1760. Il y avait 1600 hein, en 2012.
Voilà, donc ça augmente.
Aujourd'hui, il y avait beaucoup de professionnels du socio-médical, du socio-sanitaire qui étaient dans cette salle.
L'éducation nationale.
Et l'éducation nationale également.
Pas mal d'infirmières de scolaires.
Est-ce que les méthodes d'action, du coup, sur le terrain, à travers ces rencontres, évoluent, changent? Est-ce que j'imagine, le but de ces choses-là?
Mais
est-ce que vous voyez, vous, l'évolution des méthodes d'intervention sur le terrain?
Effectivement, avec l'arrivée du TROD, oui. C'est aussi quelque chose qui évolue de ce fait-là sur un public qu'on n'a pas, nous, en centre de dépistage, forcément, qu'on arrive à toucher, effectivement. Donc ça, l'intérêt des TROD à ce niveau-là, et chacun a vraiment ses missions bien spécifiques, voir après l'arrivée de l'autotest pour le VIH, quelle va être sa place et comment il va être utilisé de ce fait-là.
Le TROD, en quelques mots, c'est du dépistage sur les lieux de vie des personnes, des populations.
oui, effectivement, c'est un dépistage qui se fait sur un prélèvement sanguin au niveau digital et on a le résultat d'orientation diagnostique de façon très rapide.
J'ai senti à travers les rencontres qu'il y a eu ce matin que le dépistage était vraiment au cœur des préoccupations, peut-être même devant le traitement ou la prévention, que le dépistage était vraiment la préoccupation principale.
Oui, il y a eu par exemple une étude parisienne sur qui ciblait la population des urgences. Par exemple, il disait on va les 29 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité, ça peut être le public des urgences, c'est des gens qui vont pas voir leur médecin traitant. Et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu peu de résultats positifs. Et donc, d'où l'idée de dire il faut aller les chercher sur le lieu de vie, en dehors de l'hôpital, en dehors du cabinet de médecin médical, et favoriser toutes les actions qui sont faites par les associatifs pour aller sortir, et pas que le VIH, parce qu'il y a aussi des VHC, VHB, IST.
Aujourd'hui, une personne qui se poserait des doutes sur une pratique à risque éventuellement, vers quelle structure, vers quel lieu doit-elle se diriger ?
Si cette personne va facilement faire son médecin traitant, c'est l'idéal, médecin traitant, comme étape. Si il veut pas, et c'est fréquent, en discuter de ça avec son médecin, ben, il y a maintenant plusieurs modes. Il y a le TROD en dehors des murs, il y a les CDAG, et les CDIST, donc il y a d'autres structures où on peut accéder pour se faire dépister, qui sont maintenant diverses.
Très bien, bah merci à vous, Madame Lebrun du Corévi, Docteur Ferron du CHI Heurcène, Docteur Akoum du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Merci à vous.
Attach my feet to the path I beat. Teach myself to keep the answers brief. Gnash my teeth like the last to feast. Imagine me on that abandoned beach. Sand and sea as if the jazz was free. I'm ice cream mixed with gasoline. Direct attention to the craftsmanship. Neglect to mention that the past will stick like initials carved in the concrete. Like the tattoo that hides on your mommy. I still kick it with angels. The difference is instead of the bar, I'm at my kitchen table. The starlight shines through the glass, but you feel safe underneath that mask. Ferris wheel, give rides. The scars healed in time to get high. Lock the doors and hide the keys. Let's go describe how to climb a tree. Don't sign the lease, just cop a corner for you to curl up and try to sleep. Those cheap police won't find my wings. I keep my dreams inside my dreams. And if I had a time machine, I'd probably use it like a vacuum and try to clean. It kinda seems quite more than a handful of these regrets have been circumstantial. Now give me all the cash out the drawer. Touch that mustache down on the floor. And I'll be in court holding a pitchfork before I let the contest outlast the sport. Pocket watch. Impatient, find a mate, then make the migration. Break the rules, but first break the rulers.
and keep it moving like a rumor. I don't need to defend my defensiveness. I keep to myself, my family, and friendships. I got enough people I could disappoint. If you disagree, I think you missed the point. Now go ahead and grab a chair. Let me tell you about the last few years. Pulled out a sack full of Samson's hair and put it on the dash like a dancing bear. I wrote you a horoscope. It won't fit on this post-it note, but if I had to sum it up into a shorter quote, it goes, fuck it, you might as well row that boat.
Atmosphère avec le titre, si j'arrive à aller jusqu'à mon écran, parce que je ne les retiens pas, c'est en anglais, Camera Sief, extrait d'un album sorti le mois dernier qui s'appelle Soothsiders. Pas mal, hein ?
Il était passé au rock dans tous ses états, il y a 2-3 ans. Et c'était bien.
Bon, on arrête les déguisements, c'est que des emmerdes. Le journalisme total, c'est totalement con.
Voilà, vous pouvez enlever vos Santiago et votre chapeau de cow-boy, monsieur Pignon, nous l'avons dit. Le journalisme total, c'est totalement con. En tout cas, on vous en a proposé quand même déjà plus d'une heure là, depuis le début de cette émission du journalisme total. Je vous propose que l'on poursuive en journalisme total avec un interview que nous avions réalisé au silo à Verneuil-sur-Avre au mois de septembre à l'occasion des Mauvaises Graines. Les Yeux de la Tête étaient en train de sortir leur dernier album, l'album là, qui est en cours.
Qu'ils défendaient sur scène, du coup.
Le titre de l'album, si vous voulez tout savoir, mais nous devrions normalement en reparler durant l'échange que vous allez écouter, c'est I Don't Speak English, le titre de l'album. C'est bien ça, hein ?
Si vous le dites.
Ah oui, ça veut dire que vous me faites absolument confiance. Je dis ce que je veux et voilà. En tout cas, écoutez cet échange qui était intéressant, qui n'est pas encore passé à l'antenne suite à des problèmes techniques. Et la réponse doit être dans la question. Les Yeux de la Tête à nos micros, c'était en septembre dernier.
Nous sommes du coup toujours dans notre silo avec Benoît et Guillaume des Yeux de la Tête. Bonsoir à vous.
Salut.
Bonsoir. Voilà.
Alors là, on vous cueille quasiment en sortie de scène. Vous êtes encore ruisselant.
Voilà, tout à fait. On est tout collant encore là.
Et ouais. Alors, le plus beau de tout, c'est que c'est la deuxième scène de la journée, c'est ça, si on a bien tout suivi.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est une journée marathon.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est aujourd'hui que sort notre EP.
Voilà, fallait bien fêter la chose.
Ah bah ouais, tout à fait, on fait les choses en grand.
English, on a réussi à trouver deux concerts pour le jour de la sortie, c'est plutôt cool.
C'est assez rare,
nous, ça nous fait un peu plaisir, en fait, quoi. C'est rare d'avoir un concert de l'après-midi, du coup, de pouvoir enchaîner le soir, c'est parfait. On rentabilise.
Alors, les Yeux de la Tête, musicalement, nous ne tenterons pas de le définir, mais on pourra dire que c'est emprunté à beaucoup de styles, beaucoup de choses que sûrement vous avez dû rencontrer sur vos routes. On reconnaît certains côté flamenco, de musique balkanique, satire sur parfois au bord de la fanfare, on peut retrouver des élans punk, swing. Voilà, c'est tout ce mélange qui constitue les Yeux de la Tête.
Et encore, t'as pas tout dit ?
Ah non, j'ai pas tout dit parce que justement, on aurait presque l'impression qu'il y aurait une synthèse de tout ce que vous auriez pu croiser et vous avez dû en croiser des choses car vous êtes régulièrement sur la route et on aurait l'impression.
son qui est comme une synthèse de tout ce que vous avez
rencontré. C'est un peu ça. En fait, il y a une espèce de clé de voûte qui est les textes en français. Non, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un peu le cœur de la meule, comme on dit. Et après, musicalement, harmoniquement, orchestralement, on s'autorise un peu tout, en fait. Et du coup, on a tous des goûts assez variés. On s'est retrouvés sur l'amour des mots, de la chanson, du swing. Et après, on a, voilà, lui, il vient plus du rock, moi plus de la chanson, de la musique de l'Est, du manouche. On s'est rencontrés aussi en faisant du manouche. Donc voilà, on se permet un peu tout, l'électro maintenant aussi, le hip-hop, tout ça. Voilà, en fait, c'est tout ce qui... parler en français, et puis après.
Voilà, c'est ça, c'est tout ce qui nous influence même maintenant. C'est pas forcément notre bagage d'avant et tout. Quoi qu'on soit six sur scène, six avec des histoires différentes. Il y en a qui viennent du classique, plus du rock, etc. Et donc voilà. Et en fait, c'est même voilà tout ce qui nous influence aujourd'hui. Tu vois, la musique hip-hop aussi, la musique électronique. On s'autorise à faire plein de choses, mais sans non plus, tu sais, tomber dans le. On va faire un tableau comme ça, comme ça, comme ça. On se dit pas avant, on va faire une chanson zouk, on va faire une chanson comme ça. C'est voilà, c'est un mélange qu'on essaie quand même de garder équilibré.
Encore,
voilà, c'est ça. Entre plein de trucs,
il y a peut-être une raison. Hein.
Bah non, ça se trouve, ça marcherait bien, je sais pas. Mais voilà, c'est toutes les choses en fait qui nous touchent et qu'on a envie tout simplement de retranscrire. Puis on se dit des fois, voilà, c'est un peu original de mélanger la guitare sèche, la guitare acoustique, le texte avec un gros beat derrière. Et puis voilà, il y a plein de gens qui le font, mais on essaye de trouver voilà nos petits trucs originaux à nous.
J'ai l'impression, au vu de toutes les dates que vous faites, et puis pour vous avoir vu, je crois, deux fois sur scène à des périodes assez espacées, en tout cas que vous êtes en permanence quasi sur la route, du coup, est-ce que ça fait partie aussi du fait d'être sur la route, d'être influencé par ce qu'on croise ?
Bah, complètement, ouais, la route, c'est un peu le terrain où on passe le plus de temps à créer, en fait, parce qu'on est, comme tu dis, beaucoup, beaucoup en tournée. En France, à l'étranger, en Europe, en Allemagne, Autriche, Angleterre, Italie, on a la chance de pouvoir aller un peu partout. Du coup, on passe énormément de temps ensemble sur la route et on fait des rencontres énormes. On joue dans des festivals. Là, cet été, on a joué avec Patrice, avec Lee Field. On a fait Arrested Development, des choses comme ça, Magma,
des trucs super variés en fait. Quoi.
Et puis même des petits groupes aussi qui sont pas spécialement connus à ce point-là, mais qui t'ouvre des portes sur des trucs que toi, parisien ou même français, t'aurais pas spécialement imaginé. Et de voir à l'étranger comment on fait tel style de musique, ça ouvre plein de portes. Quoi. Du coup, à chaque fois, il y a des petits trucs qui nous disent « Ah putain, j'aime bien ce
petit son-là. » Ah, le mec, il fait comme
là,
ça, le gars, il fait comme ça.
Du coup, ça influe très concrètement sur ce que vous composez, quoi.
Et ouais, sur l'arrangement. Et encore plus, voilà, quand on passe beaucoup de temps tous ensemble, parce que ça m'assert ensuite, on se le réécoute ensemble, on en reparle et tout. Et puis finalement, il y a une espèce d'osmose générale qui tend vers un truc. Tiens, on va faire ça, ouais, tout le monde est d'accord. Et puis on va partir dans ce truc-là, même si c'est. Voilà, tu vois, comme dans des trucs comme ce soir, on part dans des chansons de gros hip-hop avec des gros passages raga, limite dubstep, et après on revient sur des chansons plus classiques et tout. Voilà, c'est rigolo.
Et puis il y a aussi le fait que quand t'es beaucoup en tournée, aussi tu répètes pas vraiment en fait, tu prends pas le temps de répéter, du coup t'as le temps de faire un peu de musique ensemble pendant les balances ou des trucs comme ça, tu vois, du coup t'es un peu tout le temps dans ce que t'as vu aussi hier soir, ce que t'as entendu, t'as un petit souvenir. Et du coup, tu testes des trucs pendant
même
les balances,
même des fois direct en concert, tu vois, tu testes des trucs, t'es dans. Enfin, ouais, t'as une ambiance où tu te sens bien, tu testes des trucs, quoi.
Du coup, c'était une de nos questions. On se disait, mais alors, en étant toujours sur la route, à jouer en permanence, bah voilà, à quel moment est-ce qu'on se pose pour travailler, composer, arranger et enregistrer? Composer, a priori, ça peut se faire
entre le 18 décembre et le 24 janvier, en général.
On s'arrête. Non, c'est chaud. C'est vrai qu'on a ce problème-là, c'est qu'on est. On prend beaucoup le temps en fait de faire les choses. Entre le premier et le deuxième album, il y a eu 3 ans et demi, quasiment 3 ans entre l'enregistrement, la sortie de l'un et l'enregistrement de l'autre.
Mais c'est pas forcément qu'on a pris beaucoup de temps, c'est que voilà, on a été beaucoup pris sur la route et qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à s'arrêter tout simplement de tourner. Même ouais, je pense que si on se disait à un moment on s'arrête de tourner, ça. C'est non, on a peur, on connaît pas quand on n'est pas en tournée.
Et là par exemple, on a des trucs dans les valises depuis 4 mois qu'on a envie de sortir, mais qu'on n'a pas pris le temps encore malheureusement de mettre en place parce qu'on est toujours en concert en fait. Là cet été c'est impossible.
Sur le fait de tourner en international, quand on est un groupe, alors on y reviendra juste après parce que j'ai une question importante autour du texte, mais quand on est un groupe où le texte a une grosse part, comment est-ce qu'on fait pour que la sauce elle prenne en Allemagne, en Autriche, sur lesquels des pays sur lesquels vous allez régulièrement et sur lesquels vous êtes bien accueillis? Comment ça se fait que ça fonctionne?
C'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées au début. On s'est dit, avant d'aller en Allemagne la première fois, mais à quelle sauce on va être mangé, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, en fait, on a toujours, quel que soit le pays, un accueil ultra chaleureux et même, pas pour dire du mal des Français du tout, mais c'est souvent plus chaleureux qu'on peut avoir dans certaines villes de France.
C'est peut-être justement parce qu'ils ne comprennent pas les
paroles. Voilà, et en fait, c'est quelque chose, ça dépend.
On demande aussi. Ça nous remet en question aussi.
Non, mais c'est pas la même écoute quand on comprend le texte et quand on ne le comprend pas, c'est pas la même écoute.
Ouais c'est ça, mais dans un sens, ça transcende un peu le truc, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils sont. Il y a une espèce de. Voilà, on ressent quelque chose ensemble, et voilà, ils ne comprennent pas le texte, mais il se passe quand même beaucoup de choses et mine de rien pour l'Allemagne par exemple, ils parlent très bien français donc ils comprennent souvent les textes, mais voilà, même s'ils comprennent pas le texte, il se passe quelque chose entre le public et nous, une émotion, quelque chose, une sensibilité qui se transmet. Et on arrive quand même à faire passer à chaque fois, dès les premières secondes, les gens sont avec nous du début à la fin.
Après, c'est aussi le principe de l'écriture musicale, c'est que t'essayes de faire en sorte que la musique dise aussi ce que dit le texte. Ouais. Du coup, je pense que même si tu comprends pas littéralement ce que le texte veut dire, t'arrives à comprendre un petit peu par la musique, quoi.
On appelle ça le feeling. Le feeling. Ouais. Dans un hostage aux États-Unis, on a appris ça, le feeling.
Sur le texte, justement, donc vous avez des textes qui sont très poétiques, je trouve, très humoristiques parfois aussi. C'est ce qu'on appelle communément la chanson à texte. Alors moi, je me pose souvent beaucoup de questions. Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans cette définition de chanson à texte? Et je voudrais savoir ce qu'on met derrière un petit peu la chanson à texte. Vous êtes rangé dans ce rayon-là quand même.
Hein. C'est une chanson à texte, de toute façon.
Non mais avec quelque chose de travailler avec de la poésie, avec un sens, une histoire.
Comme je te disais tout à l'heure, je pense que le texte, c'est vraiment la clé de voûte du projet, quoi. Et même nous, on est auteur-compositeur, je pense qu'on commence souvent par les textes et après on essaie de coller une musique dessus. Et c'est voilà, donc on fait de la chanson française, oui, on fait de la chanson à texte. Après, y a le style que tu mets derrière musicalement, on s'en fout en fait.
C'est de la chanson en fait. Voilà.
Excuse-moi, deux secondes.
Vas-y,
le truc, c'est que chanson française, ça a été trop maltraité, ouais. Et c'est devenu péjoratif. Ambiance, Brassens, tu vois, guitare-voix, juste main. Mais en fait, Bachung, il fait de la chanson française aussi. Ouais.
Alizé fait de la chanson française aussi.
Bon, c'est pas forcément.
tu devrais écouter.
Ayam fait de la chanson française aussi.
Je fais de la transition, Booba aussi en fait.
Booba, j'ai pas bien tout saisi là. Ah non, mais ça, faut voir avec notre saxophoniste. Il a un petit problème avec Booba. Il faudra lui demander en privé.
Ils se sont embrouillés dans un magasin.
Ils se sont embrouillés une fois en boîte tous les deux. Eddie lui a foutu la misère. Enfin, faut regarder sur Twitter. Ils en parlent tous les deux souvent. Mais pour revenir à ce que disait Benoît, voilà, c'est ça, c'est de la chanson, c'est des chansons en fait, c'est des chansons avec des histoires ou avec pas d'histoires, avec des émotions, mais voilà, ça se cantonne plus, de toute façon aujourd'hui la chanson française se cantonne plus à une guitare sèche et un mec qui chante avec une grosse moustache. Ça a même été toujours, c'est super large seulement, voilà, à la Fnac il faut pouvoir nous mettre dans un bac, alors voilà, on est dans la chanson française. On aurait pu être dans le punk, dans le rock.
En dehors même des bacs, on peut trouver des points communs avec certains autres chanteurs ou groupes qui mettent une importance sur la poésie notamment. Enfin, c'est quelque chose qu'on ressent quand même. Il y a beaucoup de chanteurs sur lesquels il y a très peu de poésie. C'est axé soit sur un message, soit sur une mélodie, soit sur. Et vous faites partie de la catégorie de ceux qui racontent quelque chose tout de même. Enfin, c'est là-dedans que moi je vois le texte.
Ouais, bah.
Après, c'est du ressenti. Ouais.
Non, mais t'as raison, j'avais pas compris la question dans ce sens-là, en fait.
Ah, vous n'avez pas forcément de sens, hein. C'est moi qui mets celui-là.
En tout cas, on essaye de se prendre la tête un petit peu pour écrire. C'est oui, c'est ce que tu veux dire.
Et puis, et même, ce qui est marrant, c'est que même Ben et moi, on n'écrit pas de la même façon, etc. Et c'est ça qui est rigolo.
Sur l'évolution du son, on sent qu'il y a quand même. une grosse évolution dans le son que vous faites.
Entre le début et maintenant. Déjà, il y a du temps qui s'est passé.
On
a inventé la guitare électrique depuis, déjà. Hein, donc on en profite.
C'est nous qui l'avons inventé en plus. On est en tournée.
Et du coup, est-ce que vous arrivez à vous voir dans l'avenir, ou c'est le moment, enfin c'est le présent que vous jouez, ou est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir musicalement, hein, j'entends, hein, pas en termes de projet.
Ah, hein. Disons qu'on n'est pas, on n'est pas dans la recherche de l'originalité future pour l'instant, mais. Disons qu'on on se laisse porter comme on a fait pour chaque 10, etc. On se laisse aller à nos influences du moment, de ce qu'on ressent sur le moment, comment vont les compositions avec le temps. Mais moi, je pense qu'à l'avenir, ce sera toujours la même chose, exacerbé encore plus, avec toujours des influences. Ça restera jamais dans les sentiers battus, à mon avis. Voilà.
Ouais, non, mais t'as raison.
On le disait tout à l'heure, en début d'échange, que vous sortiez aujourd'hui un EP qui s'appelait I Don't Speak English. Je suis assez sensible à ça parce que moi non plus, je ne speak pas English. Et je voulais vérifier, vous ne speakiez vraiment pas English ?
Du coup, because we go de temps en temps in Germany,
in Angleterre, we have to parler un petit peu English quand même.
So we try. It's not facile.
Disons que en vrai, on speak English parce qu'on y arrive. Mais cette chanson, pour entrer dans les détails, c'est plus un pied de nez, tu vois, à toute cette industrie d'aujourd'hui où on nous dit qu'on n'est pas swag, qu'on n'est pas sexy dans le milieu, etc. Si on chante pas anglais, donc voilà, c'est un petit pied de nez à tout ça. Évidemment, comme enfant de l'an 2014, aujourd'hui, nous parlons quand même un petit peu anglais. Mais il fallait quand même le dire que c'est pas obligé de faire du Daft Punk.
C'est un hymne à la chanson française
pour être
libre,
quelque chose en France, quoi.
Voilà. C'est pas parce qu'on sait qu'on est obligé.
Ouais, voilà. Mais on sait qu'on est obligé, mais justement, on veut pas le faire et on le fera pas.
Dernière chose, il y a le visuel de cette EP, I Don't Speak English. Alors tout le monde ne doit pas forcément avoir bien en tête, vu que c'est surtout à la radio. C'est tout frais. Mais alors, pour le décrire, ce sont deux enfants d'une autre époque quand même, j'ai l'impression, hein, qui se regardent, j'irais, nez à nez, un ayant un doigt tendu vers l'autre. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus? Enfin, moi, elle me parle. Il y a quelque chose.
Raconte-nous un peu.
Alors, est-ce que c'est vous quand vous êtes petit?
Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ça te raconte quoi, toi?
Ça me raconte quoi? Alors, ça me raconte.
Normalement, sac de billes.
Il y a un côté billes, effectivement, sac de billes presque.
C'est un peu ça,
cette histoire. Voilà. Je ne saurais pas mettre des mots forcément sur une histoire, mais ça évoque. Comme une petite madeleine, quoi.
On a l'impression qu'ils s'altèrent un peu l'un l'autre, tu vois. Donc, il y a le côté un petit peu dans speaking English, genre, bon, me fais pas chier, c'est pas parce que je parle pas anglais qu'il faut que tu m'emmerdes. Et puis il y a un côté aussi, les deux bonhommes, en fait, nous on aime bien ce principe-là, parce que Les Yeux de la Tête, c'est un groupe où on est un peu justement deux chanteurs, tu vois, on est deux là à l'interview, des trucs comme ça. Donc il y a un côté un peu bipolaire dans Les Yeux de la Tête, un peu bicéphale.
Il y a Antoine, notre cordonniste, qui veut rentrer. Est-ce qu'il peut rentrer?
Bien sûr. Ce côté des deux gamins comme ça qui se prennent la tête.
Ouais, voilà.
Et puis ça rappelle une nostalgie aussi, une petite époque assez sympa.
Et puis aussi par rapport à ce qu'on disait avant, tu vois, I don't speak English, comme il disait, rends-moi mes billes, tu vois, c'est un peu, c'est un jeu de gamins, les mecs. Aujourd'hui, tout ça, c'est que du jeu, tu vois. On joue, c'est des gamins qui se prennent la tête ensemble, à savoir, tu vas faire plus de boum boum, plus de machin, tu vas chanter en anglais, tu vois, c'est un peu ça. C'est tout ça, c'est. Ça n'a pas d'importance, c'est des jeux d'enfants, autant y aller à fond, tu vois.
Et alors, justement,
c'est pour les enfants.
Voilà, la bagarre, c'est pour les enfants.
Ça fait 8 ans, du coup, que vous tournez avec Les Yeux de la Tête. Est-ce qu'il y a encore ce côté enfant à jouer au quotidien quand on a fait autant de scènes?
Jamais plus que maintenant. On peut dire que...
Ah oui.
Aujourd'hui, on se fait deux concerts comme ça. On est chaud, on est à fond.
De toute façon,
ça nous arrive encore de faire des manches, des choses comme ça.
Faut aimer les colos, de toute façon, pour passer son temps avec 6 autres bonhommes dans un camion et à dormir à 12 dans des chambres. Faut aimer la colo. Faut être un peu des gamins. Non, mais... c'est quand même un peu ça, c'est l'aventure, c'est quand même la rigolade un petit peu.
On rigole bien.
La nostalgie,
il faut le dire.
On est des grands enfants et
C'est pas un mal, hein. Si bah on peut vivre, si
on s'amuse encore bien entre nous, même après 7 ans.
C'est un peu, voilà, la pochette, c'est ça. C'est faut pas se prendre la tête. On est tous des gamins qui se volons nos billes. Voilà ce qu'on est.
Très bien. Bon, on les recontra avant que vous partiez, en tout cas. Merci.
Il y en aura moins qu'à l'arrivée. Hein,
j'en ai bien l'impression. Merci à vous, en tout cas, Benoît et Guillaume, des yeux de la tête, d'être passés par nos micros.
Je peux prendre le micro, il a l'air vachement bien.
Ah non, on a encore peu besoin pour la fin de l'émission. Merci à vous.
Merci.
En tout cas, je me retourne vers notre réalisateur Deuz. Est-ce qu'on peut retourner sur la scène pour écouter peut-être la fin du concert de Talisker? Parce que c'était plutôt pas mal.
Bien aimé passer à la télé en chantant de la pop et du rock. Faire des high feel, des walking down the street et que les filles se jettent à mes bottes. Oui, mais voilà, moi je suis qu'un pauvre François. Ma seule langue étrangère, c'est le patois. C'est tant pis pour moi, peut-être si j'essaye avec ça. Voulez-vous coucher avec moi? Don't speak English.
Excusez-moi, je vais vous garder la souris. Boulache et Willy de Air Jamaica sont arrivés dans le studio. Ils embarquent déjà la souris, comme si c'était l'heure. Et non, messieurs, il nous restera 3 minutes avec la souris dans la main. C'est comme ça qu'on fait.
Bah, dépêche-toi alors, hein.
Ah, ils sont brutaux, les Rastakouer.
Exactement. C'était la petite bête sur le fil qui aujourd'hui avait tout mis en boîte. En boîte de reportage, en boîte d'enregistreur, en boîte de... Je sais pas, aidez-moi, monsieur Pignon.
De recyclage, en Tupperware.
Et de boîte de recyclage, exactement pour la dernière partie qui était la partie... les yeux de la tête, exactement. Boulache, alors on va faire ça comme ça. Je fais des signes depuis tout à l'heure qui ne sont pas perçus. Monsieur Boulache, vous pouvez commencer à préparer. N'envoyez pas votre son tout de suite. Nous allons conclure. La petite bête sur le fil, hein, vous concluez.
Nous
si
aussi
vous...
on peut vous squeezer vos émissions.
Ah ouais, c'est ah ça. Ouais. Allez, au bras de fer. On se la joue au bras de fer.
Ça sent la revanche.
Voilà, j'ai l'impression. J'ai l'impression. En tout cas, la petite bête sur le fil était heureux de vous avoir parlé de paysans et d'agriculture.
En espérant que ce soit bien. J'ose plus rien dire là. J'ose plus rien dire là. Je me suis fait reprendre à l'arrivée des Rastas.
On a été content également de vous parler de prévention, de dépistage et de la fameuse nouvelle donne. Oui. Nous avons été heureux également de vous avoir diffusé enfin ce fameux reportage avec les yeux de la tête. Oui.
On espère qu'on se retrouve pour de nouvelles manifestations.
Exactement. C'est un petit moment de joie
partagée. On a l'impression d'être en pleine guerre à ces moments-là. Et c'est chouette.
Exactement. La petite bête. Ah, on va refaire dans l'ordre. Vendredi prochain, même endroit, même heure. Ce sera comme à la maison avec le groupe Pure qui passera à nos micros. Ou Pure. Nous vérifierons avec eux.
Un des membres m'a dit peur même.
Peur.
Mais pas comme en français.
Et ben pourtant,
ça fout pas les pétoches.
La semaine d'après encore, la petite bête sur le fil avec comme sujet femme d'ici, femme d'ailleurs, parcours de migrante. Et nous, on vous souhaite une bonne fin de soirée avec Air Jamaica. Ah, dans 15 jours.
À la prochaine.